Radio Kapi. Oh,
Kapi. À la présentation, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les coordonnateurs humanitaires en RDC appellent à une grande mobilisation pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays. Après sa visite auprès des déplacés, Bruno Le Marquis souligne depuis Goma que pour ce mois de juillet, la réponse humanitaire en RDC n'est financée qu'à hauteur de 30%. Les membres de l'Association des travailleurs du Congo, ATCO, en sigle, réclament les bonnes conditions de travail. Ces agents du secteur du commerce, tenus notamment par les expatriés, étaient en assemblée générale hier dimanche à Kinshasa. Après avoir rencontré les sinistrés des gros éboulements de Calais au sud Kivu et les déplacés du site de Lushagala à l'ouest de Goma, le coordonnateur de l'action humanitaire appelle à une mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC. Bruno Le Marquis est l'invité de ce journal. Exclusivité à suivre à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les coordonnateurs humanitaires en RDC appellent à une grande mobilisation pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays. Tout en saluant tous les financements déjà rendus possibles, Bruno Le Marquis souligne que pour ce mois de juillet, la réponse humanitaire en RDC n'est financée qu'à hauteur de 30%. Il a dit hier dimanche à Goma, après avoir visité le site des déplacés de guerre de Lushagala à l'ouest de la ville et la veille, les sinistres de la catastrophe de Calais au sud Kivu. Pour lui, en entendant le rétablissement de la paix dans le pays, il est urgent que ces populations soient assistées. Des détails avec Rosalie Zawadi.
Au Nord Kivu, l'écart de la population est actuellement déplacé. Dans la province voisine de l'Ituri, 35% de la population vit en déplacement. Toutes ces personnes ont des besoins urgents alors que l'enveloppe disponible est insuffisante, déplore le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire, Bruno Le Marquis.
La réponse humanitaire en RDC est financée au mois de juillet à 30%. On parle vraiment de sommes tellement importantes. Donc on remercie tous les bailleurs pour toutes les sommes très importantes qu'ils ont déjà dégagées. Mais ça ne représente que 30% des besoins de la communauté humanitaire compte tenu de l'étendue des besoins. Encore une fois, je profite pour faire un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour essayer de toujours faire plus. Ensuite, comme on dit, l'assistance humanitaire n'est pas la réponse aux problèmes humanitaires. La réponse aux problèmes humanitaires, c'est vraiment les processus de paix. C'est la recherche de solutions pour que les gens puissent rentrer chez eux un jour et se réinstaller chez eux. Mais en attendant, tant que ça, ce n'est pas une réalité, l'aide humanitaire est vraiment essentielle pour que les gens, comme ici à Bushagala, 67 000 personnes qui sont à peu près entièrement dépendantes de cette assistance d'urgence.
Les déplacés de Lushagala aussi demandent au gouvernement de trouver les moyens de régler au plus vite la situation sécuritaire chez eux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Vous venez de le suivre avant l'étape de Goma, le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies a visité samedi les rescapés de la catastrophe de Calais au sud Kivu. Sur place, près de 200 enfants en situation difficile après cette catastrophe naturelle de mai dernier ont déjà été réunifiés avec leurs familles. C'est l'organisation Action Chrétienne pour l'aide et le développement, ACAD, qui accompagne ces enfants à travers des espaces amis d'enfants à Bouchouchou et Nyamukubi. Travail qu'elle a commencé au lendemain de la catastrophe avec l'appui de l'UNICEF. C'est toujours une joie de voir un enfant qui retrouve un membre de la famille, proche ou lointain, explique Bienvenue Tabingé, chargé de la protection de cette organisation. Il ajoute que jusque-là, des centaines d'enfants n'ont pas encore retrouvé leur famille. Bienvenue Tabingé revient sur le soutien aux enfants en situation difficile dans les deux villages touchés par la catastrophe. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
En fait, l'espace amis d'enfants, c'est depuis le 6 mai. Dans les deux zones de Bouchouchou et Nyamukubi, nous en avons trois. Et au total, nous accueillons 1275 en moyenne. Il y a des enfants de la communauté qui viennent jouer ici parce qu'on n'a pas de discrimination. Mais au total, nous pouvons compter actuellement 1001 orphelins et enfants vulnérables, 102 enfants aînés et 203 enfants séparés. Donc, je vais mettre des aînés enfants non accompagnés. Après chaque séance de prise en charge psychologique, des jeux, tout ça, il y a un repas qu'on leur donne. Nous faisons aussi un encadrement en termes de ces enfants qui sont non accompagnés. Nous cherchons leur famille et nous essayons de les réunifier. Et actuellement, la réunification monte déjà jusqu'à 193 enfants. Ils ont déjà retrouvé leur famille. D'autres continuent à rester dans des familles d'accueil transitoires et familles d'accueil spontanées. en attendant que nous retrouvions leurs familles.
Notez que sur place, le coordonnateur de l'action humanitaire a visité un espace ami d'enfants. Bruno Lemarquis a encouragé le soutien donné à ces enfants affectés par cette catastrophe qui a fait près de 500 morts et des milliers de disparus. Toujours au nord Kivu, 75 sur les 117 sites de déplacés répartis dans les territoires de Nyiragongo manquent l'eau potable depuis deux semaines maintenant. Le président des déplacés du dit territoire lance un cri d'alarme auprès des ONG et au gouvernement pour voir comment approvisionner en eau ces sites qui hébergent plus de 5000 ménages. Ces personnes vulnérables vivent difficilement dans les écoles et les églises sans eau, ni toilettes et douches. Conséquence, plusieurs cas de diarrhée sont déjà enregistrés dans différents sites. Bernardine Diambou nous fait le point.
D'après les présidents des déplacés de Nyiragongo, les ONG telles que Merci Corps, Avides, Immigrants Lac et MSF approvisionnaient ces sites en eau potable. Depuis deux semaines, ces organisations ont suspendu leurs interventions dans le cadre de roches par manque de financement, a indiqué notre source. Du coup, on observe déjà des cas de diarrhée. Moussekou Radeo craint le pire si rien n'est fait. Il tire ainsi la sonnette d'alarme et demande au gouvernement congolais de restaurer la paix dans la zone afin de leur permettre de rentrer dans leur milieu d'origine.
Nous avons déjà eu trois cas de décès. Nous avons aussi des cas d'accident suite à traverse de la route en recherche de l'eau potable. C'est ça, nous vous supplions de faire l'intervention auprès des déplacés. Les déplacés risquent de mourir suite au manque d'eau. Mais le plus grand souci que nous avons, c'est de restaurer la paix dans nos villages que nous avions quittés pour qu'on puisse y rentrer.
Notez qu'actuellement, c'est l'ONG NRC a installé quelques tanks d'eau de fortune dans trois sites. C'est notamment dans les sites de 8e Sepak à Munigi, Tanabo, Rombo, Mama Fifi et Aniakabanda, toujours selon notre source. Mais cela ne résout pas les problèmes, a-t-il affirmé. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
En réaction, l'Association nationale des victimes du Congo invite les nouveaux animateurs du Fonds national des réparations des victimes à œuvrer pour l'indemnisation complète des victimes des conflits armés en RDC. Comme vous le savez, une ordonnance présidentielle vient de nommer les animateurs du Fonds Narev. Selon le président de l'Association des victimes du Congo, il s'agit d'une réponse à la longue lutte menée en faveur de toutes les victimes. Et cela entre bien dans le cadre de formalisation de la justice transitionnelle. Au Kwilu, aucune candidature n'est encore déposée au bureau de réception de traitement des candidatures de la CENI à Idiofa. Et il n'y a pas d'engouement dans ce bureau à moins de 10 jours de la clôture de cette opération. La nouvelle société civile locale qui déplore ce retard indique que tous les potentiels candidats traînent encore à Kinshasa. Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure, appelle à cet effet les partis politiques ou regroupements politiques à faire vite pour déposer les candidatures de leur potentiel à la CENI avant la date limite pour éviter certaines conséquences de dernière minute. Arsène Kassiama, coordonnateur de la nouvelle société civile d'Idiofa, est joint par Irène Boma.
Aucun parti politique ni regroupement politique n'est parti. Il n'y a que peut-être un parti ou deux partis politiques qui sont allés retirer le formulaire. Jusque-là, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. En suivant les informations, tout se traite au niveau de Kinshasa. On attend que les mandataires qui viendront avec tout, on ne sait pas quand. Mais sinon, à Idiofa, vraiment, le bureau est sec. Il n'y a pas d'engouement là-bas. Pour le dépôt de candidature, il n'y a rien qui se présente. C'est ça que je parle de la sécheresse. Les gens ne partent pas. Les bureaux sont ouverts, ils attendent que les dernières minutes pour venir vraiment bousculer les bureaux là-bas et les gens vont travailler à la hâte. Et nous les appelons à ce qu'ils viennent, le moment, le temps est là, qu'ils viennent déposer leur candidat. Les hommes politiques, les partis politiques ou les regroupements politiques de passer pour leur dépôt, qu'ils essaient de bouger un peu vite pour venir aussi déposer. Vous savez que le retard, il y a beaucoup de conséquences. La date est bien limitée. Quand on dit, bon, on a donné pour un mois, c'est pour un mois. S'ils viennent en retard, c'est pour demain encore des prolongations. Cela risque de causer beaucoup de préjudices à la CENI.
Justice, on en sait un peu plus maintenant sur l'opposant politique Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste. Il a été transféré de l'ex-Demiap à la prison militaire d'Endolo après une brève audition à l'auditoire général des FARDC. Selon ses avocats, il lui est reproché les faits de bagarre au quartier Grand Malik entre les groupes dits la force du progrès et celui des Mongo, avec l'implication de Franck Diongo et son parti. Il est encore accusé du port illégal d'armes. C'est depuis le 20 juin que cet opposant politique a été signalé comme étant enlevé puis détenu au secret sans accès de ses avocats ni de sa famille. Ses conseils qui dénoncent les conditions de sa détention disent espérer la tenue d'un procès équitable garantissant les droits de la défense. Justice toujours, les 27 kidnappeurs, dont 4 policiers arrêtés par la police à Kinshasa, ont tous été condamnés vendredi dernier tard dans la nuit par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ils ont été jugés dans une procédure de flagrance devant l'esplanade du bâtiment de la territoriale. Plusieurs d'entre eux ont écopé de la peine de mort, certains de 10 ans de servitude pénale principale et d'autres encore de 2 ans ou à 5 ans de prison selon les degrés de l'infraction pour chacun. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, vol en main armée et meurtre. Le tribunal les a également condamnés au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 5 millions de francs congolais. À défaut, ils vont subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Les condamnés à la peine capitale devront payer les amendes de 20 000 dollars américains. Ces criminels ont sémé l'insécurité dans la capitale, provoquant la désolation dans l'opinion à la suite des enlèvements dans lesquels ils se sont illustrés via les moyens de transport en commun. Et pour réagir à ces verdicts, l'ONG de défense des droits de l'homme, dénommée Dynamique de lutte contre le trafic humain et la traite des personnes, DCTH, demande aux autorités chargées de l'exécution de ces jugements de veiller à ce que chaque condamné purge sa peine définitive. Par ailleurs, la DCTH demande vivement au Premier ministre Samalou Kondé d'instruire le ministre de la Justice de veiller à ce que les kidnappeurs condamnés purgent leur peine dans une prison située loin de Kinshasa, soit à Boulouo, soit à Angenga. Le coordonnateur national de la DCTH, Dieu merci Kitambo, est au micro de Noéla Luzito Kabambi.
Après le véridique prononcé par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, condamnant 4 policiers à la peine de mort ainsi que d'autres civils, la DCTH demande aux autorités chargées de l'exécution du jugement de veiller à ce que chaque condamné purge sa peine définitive. La DCTH demande vivement au Premier ministre Samalou Kondé d'instruire les ministres de la Justice de veiller à ce que les kidnappés condamnés purgent leur peine dans une prison située loin de la ville de Kinshasa, soit Boulouo, soit Angenga. La DCTH exhorte la population de ne pas paniquer devant cette situation.
Je le disais au sommaire, les membres de l'Association des travailleurs du Congo, ATECO en sigle, travaillant dans les secteurs de commerce, tenus notamment par les expatriés, les Indo-Pakistanais, Libanais, Chinois et autres, réclament des bonnes conditions de travail. Ils l'ont fait savoir à l'issue d'une assemblée générale organisée hier dimanche ici à Kinshasa. D'après le président de cette structure, Belsi Ngandi Abdoul, ces travailleurs demandent aux autorités congolaises de se pencher sur leur situation. Il les résume ici en 3 points au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous demandons maintenant à l'autorité de changer les conditions de vie des travailleurs du secteur du commerce. On a un problème de taux. Le salaire s'est fixé en dollars, mais on nous paye à 1415. Ensuite, sur le problème des heures de travail, il faut que l'inspecteur général du travail ou le ministère du travail voient un peu les conditions des heures de travailleurs. Ce n'est pas respecté. Chez nous, au secteur du commerce, les agents commencent le boulot à 7 heures, mais ils terminent à 18h, à 20h, à 21h, même les heures supplémentaires, c'est même pas payé.
Et le troisième problème?
Maison de placement, cela veut dire ce qu'on appelle sous-traitance là. Chez nous là-bas, ils sont en train maintenant de gérer le personnel. Quelqu'un qui t'amène, il te place et puis lui-même, il commence à te gérer. Donc nous sommes en train de réclamer ça chez le gouvernement. Le gouvernement nous aide d'effacer toutes les situations là dans le secteur du commerce.
Actualité internationale.
La 63e session de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée en fin de journée hier dimanche. Le président du Nigeria a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la CEDEAO, il entend combattre les changements anticonstitutionnels. Le Nigérien Bola Tinubu s'oppose au coup d'État militaire. Et puis, fin du suspense au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sera bel et bien candidat à la présidentielle du 26 août prochain. Le président sortant l'a annoncé hier dimanche lors d'un déplacement en coq près de Libreville, la capitale. Il briguera ainsi un troisième mandat, la constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation du mandat présidentiel.
L'invité.
Après avoir rencontré les sinistrés des gros éboulements de Calais au sud Kivu et les déplacés du site de Lushagala à l'ouest de Goma, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire appelle à une mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC. Pour Bruno Le Marquis, il faut plus de moyens pour répondre aux besoins des communautés en attendant le rétablissement de la paix dans les provinces de l'est du pays. Il est l'invité de ce journal. Suivez-les dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui dans ces sites de Lushagala que vous visitez pour la première fois. Qu'est-ce que vous venez de constater ici ?
Alors, ce site de Lushagala, c'est 67 000 personnes, 13 000 familles, essentiellement des familles qui se sont déplacées ces derniers mois, notamment depuis le mois de janvier 2023, du territoire de Masisi. Du fait des combats avec le M23, elles sont venues ici, 67 000. C'est un des plus gros sites de déplacés aux alentours de Goma. Comme on le sait, il y a actuellement à peu près 1,2 million de personnes qui ont été déplacées directement du fait des conflits, des combats entre l'armée congolaise et le M23. 1,2 million sur le territoire du Nord Kivu et à peu près 600 000 personnes, 50% de tous ces gens sont aux alentours de Goma, vers Sake et puis vers Kanyaruchinya. Donc ce site de Lushagala est un des plus gros. Au niveau de l'assistance en cours, donc comme je dis, énormément a été fait. Mais si on parle de la crise en général, le nombre de déplacés depuis 2022 en RDC a continué à augmenter à cause donc de la résurgence du conflit au Nord Kivu, mais également, et je dirais presque surtout, en Ituri, puisque du fait de la, comme conséquence indirecte de la crise du M23, il y a eu un vide sécuritaire créé en Ituri, dans lequel se sont engouffrés plusieurs autres groupes, notamment les ADF, la CODECO, le groupe Zahir. Donc il y a également beaucoup plus de populations déplacées maintenant en Ituri depuis ces 12 derniers mois. Et pour donner deux chiffres qui sont vraiment très frappants, 39% de la population totale de l'Ituri est actuellement déplacée. 39% et 25% au Nord Kivu.
En échangeant avec les comités des déplacés et même les humanitaires, ils vous ont présenté énormément des besoins pour ces familles déplacées. Quelle réponse par rapport à toutes les demandes qui vous ont été présentées ?
Parmi les problèmes que les déplacés nous ont mentionnés ce matin, au-delà des les problèmes d'assistance alimentaire, la question de l'eau, puisqu'ici l'eau arrive hélas par camion alors que nous ne sommes pas trop loin du lac. Donc j'espère que les partenaires humanitaires vont pouvoir trouver des solutions un peu plus, disons, semi-permanentes pour pouvoir tirer des conduites jusque dans ces sites. Il y a la question des soins de santé, mais actuellement ici, nous sommes dans une clinique des partenaires avec, qui fonctionne avec énormément de consultations par mois. Les questions de protection, c'est vraiment très très important, les questions de protection, comme j'ai mentionné. Beaucoup de cas de violences basées sur le genre, de violences sexuelles, beaucoup de cas de femmes, de filles qui, lorsqu'elles sortent du camp, se font agresser. Et puis le recours au sexe de survie qui s'est vraiment propagé dans ces sites, qui vient du fait que les personnes se sont déplacées ici et ont perdu leurs moyens de subsistance. Le chiffre que je veux donner, je ne veux pas bombarder de chiffres, mais simplement pour dire qu'entre 2021 et 2022, donc c'est vraiment entre 2021 et 2022 qu'il y a eu cet afflux de la plupart des déplacés, le nombre de violences basées sur le genre dans la province du Nord Kivu a augmenté de 73%, donc ça a presque doublé. Donc il y a une corrélation entre cette augmentation et le fait qu'il y a tous ces sites maintenant autour de Goma.
Et par rapport à toute cette situation, vous avez mentionné l'Ituri, le Nord Kivu, la communauté humanitaire à relever les niveaux en RDC. Qu'est-ce que cela implique ?
Par rapport à l'augmentation des besoins humanitaires, à la dégradation très très marquée de la situation humanitaire depuis mars 2022, comme j'ai dit, une très grosse augmentation du nombre des déplacés internes, une explosion des besoins humanitaires du fait de la résurgence de ces conflits, des partenaires humanitaires qui sont débordés et qui n'ont pas les moyens de répondre à toutes ces crises qui ne sont pas seulement au Nord Kivu ou au Sud Kivu, il y a également l'Ituri, mais il y a également d'autres endroits du pays où ils doivent être actifs, notamment à l'ouest avec la situation à Maïdombé et Kwilu. Donc il y a eu l'activation, ça se traduit pas très bien en français, on dit mise à l'échelle, en anglais on dit scale up. Donc cette décision a été prise il y a 2 semaines de faire cette activation décidée au niveau mondial pour la RDC pendant plusieurs mois et ça a été suivi immédiatement par l'activation interne chez toutes les agences humanitaires des Nations Unies, l'UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial, le FNUAP, le Haut Commissariat aux Réfugiés, l'Organisation Internationale aux Migrations, la FAO, l'Organisation Mondiale de la Santé et OCHA. Ces 8 organisations ont déclaré leur système interne de plus haut niveau d'activation, ce qui va permettre d'avoir plus de moyens internes, plus de personnel qualifié, une simplification des procédures bureaucratiques pour aller plus vite. Et donc tout ça est en train de se déployer. Cette activation nécessite également des conversations très engagées avec le gouvernement, avec les autorités congolaises, pour qu'un certain nombre d'actions, de décisions soient prises, puisque nous sommes ici toujours en appui au pays. Donc il y a un certain nombre de sujets, que ce soit les questions d'obstacles administratifs, que ce soit la présence de l'État dans certaines zones. Donc nous avons ces conversations avec les autorités congolaises pour qu'il y ait vraiment un accompagnement de cet effort qui est fait au niveau des partenaires humanitaires et aussi un plaidoyer très fort au niveau de la communauté internationale et des bailleurs de fonds.
Monsieur Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup et bonne journée à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bruno Lemarquis, coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, était notre invité. Il s'est entretenu à Goma avec Rosalie Zawadi. Fin de ce journal, supervisé et coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi. La technique était assurée par Dieudonné Nyangasa. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.